Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mais vous fasse loisir, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine. Et ce matin, des livres et des films qui font du bien pour les vacances de Noël, en compagnie des journalistes Christine Ferniaud, Éric Libiot et Christine Lapelle-Edouel. Patrick Beau vous proposera deux escapades pour des vacances de dernière minute. Notre chef Grégory Cohen vous régalera d'une entrée et d'un dessert pour votre réveillon de Noël. Il vous donnera des idées pour sublimer le plat préféré des Français. Vous verrez ce que c'est, mais vous devinez peut-être. Oh, non,
oui, si on devine. Ouais.
Bon. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de votre chronique philo?
Eh ben, ça parle un peu de films aussi, puisque la question est la suivante. À quoi bon offrir des DVD? C'est une question que je me suis posée cette semaine, et donc je me suis dit que j'allais en faire une chronique.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Votre chronique, c'est l'ami du vendredi, un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié. Qui deviendra notre pote cette semaine?
Eh bien, c'est Babou. Vous verrez d'où vient Babou. Mais en tout cas, c'est une femme qui vraiment en a ras le bol que les soirées se passent sans elle.
Et vous retrouverez la chronique sexe de Maya Mazorette la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager des fictions qui enchanteront nos vacances de Noël au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Mère vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi. Grand bien vous fasse.
Bonjour Grégory Cohen.
Ah, bonjour Ali Rébéi.
Notre chef bien-aimé, vous nous avez concocté deux recettes simples et goûteuses pour le réveillon.
Oui, alors il y en a une qui va s'appeler l'œuf parfait en toute simplicité, mais on va le...
Au cœur café.
Voilà, exactement. Mmh. On va le transformer, on va lui mettre un petite pointe de café dans le jaune d'œuf et je vais expliquer comment on va le faire. Et puis, évidemment, on va devoir faire tous plus ou moins un gâteau de Noël. Généralement, ce gâteau de Noël, ça va être une bûche. Et là, je vais donner la recette. Un ratable pour faire cette bûche, justement, sans la casser quand on va la rouler.
Bonjour, Christine Lapelle-Edouel.
Bonjour,
alias Lady Crumble dans certains milieux autorisés. journaliste à Psychologie Magazine et co-autrice de la version poche de la revue Grand Main vous fasse, La puissance des liens chez Pocket. Petit avant-goût de votre choix de livre.
Un livre absolument hors du commun, unique, une rétrospective de quelques-unes des 10 000, plus de 10 000 estampes de génial dessinateur du 19e siècle, Gustave Doré.
Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali.
Vous êtes chroniqueur ici, dans le Grand Mais vous fasse. Et à lire.
Je peux y aller si vous voulez.
Au revoir.
Et à lire magazine littéraire. Alors, dans votre panier tout à l'heure.
Eh bien, écoutez, un livre et un documentaire, notamment La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson et Vincent Munier. Dépaysement garanti.
Bonjour Christine Ferniaud.
Bonjour Ali.
Alias Princesse Christine, journaliste à Télérama. Quelques livres gourmands dans votre besace tout à l'heure?
Oui, de la saveur et un peu de Rabelais.
Grégory Cohen, tiens, Maria vous demande comment changer de la raclette traditionnelle. La raclette, c'est devenu le plat préféré des Français selon une étude du cabinet Sociovision pour TF1 réalisé du 8 au 22 novembre et un sondage YouGov de 2019 indiquait que 71% des Français préféraient la raclette à la fondue. Quels sont d'abord peut-être les fondamentaux de la raclette que nous serons nombreux à partager pendant les fêtes?
Alors la raclette, c'est normalement pommes de terre, cornichons, du fromage, soit on est côté Suisse, soit on est côté France.
Au lait cru de préférence.
Au lait cru, évidemment. Maintenant, il y a plein de types de fromages à raclette différentes. Il y en a qui sont fumés, il y en a avec croûte, il y en a sans croûte, il y en a avec du cumin, il y en a sans cumin. Et puis aussi, on peut partir sur du fromage à raclette neutre. Et puis, nous-mêmes, l'assaisonner exactement comme on veut. C'est un petit peu le sens, en fait, de comment améliorer cette raclette. Une raclette, généralement, c'est un morceau de fromage qu'on va mettre dans un caquelon sous une résistance qui va chauffer très fort, ça va faire fondre le fromage. Et ben rien ne nous empêche de mettre un peu de kirsch au fond du caquelon, histoire de rappeler justement cette fondue et puis du coup réunir ces deux mondes. Rien ne nous empêche non plus de mettre un petit peu d'ail,
de frotter un peu d'ail
au fond du caquelon, comme ça on a un goût un petit peu différent. Rien ne nous empêche de rajouter un petit peu d'herbe de Provence, du paprika ou quoi que ce soit à notre convenance, ou du poivre même. sur notre fromage, ce qui fait qu'on va l'assaisonner comme on veut. Et puis, il y a aussi les pommes de terre. Alors, sur les pommes de terre, il faut éviter absolument les pommes de terre farineuses, celles qu'on va utiliser pour les frites, parce que du
les
coup,
binges,
ça va.
Les binges, par exemple.
Les binges, ouais, c'est, alors les binges, c'est un peu la pomme de terre passe-partout. Mmh. Ça, c'est un petit peu, mais on va laisser tomber la grilla, par exemple, qui est pas une pomme de terre exceptionnelle. On va plutôt aller vers la charlotte, la pompadour, la rosewald, ou même les rates, qui sont des petites pommes de terre faciles. Et puis, moi, je conseille de les cuire. Alors, généralement, on les cuit, on les fait bouillir, ou alors à la vapeur. Moi, je les conseille, plutôt, en robe des champs, c'est-à-dire dans un papier aluminium au four.
Pendant combien de temps?
Ça va. Regardez, ça va vraiment dépendre de son four et de la puissance du four. C'est toujours compliqué de donner des moments de four, mais généralement on ouvre un petit peu le papier d'aluminium. Mais oui, parce qu'en fait, on va se retrouver avec le four dernière génération qui va cuire super bien et qui va transmettre la chaleur. Allez, il faut compter une vingtaine de minutes à peu près.
Pourquoi vous préférez ce mode de cuisson?
Parce que ça va un petit peu donner un côté un peu fumé, un peu caramélisé, et du coup, ça va rehausser aussi. Aussi le goût de cette raclette qui peut être parfois un petit peu neutre.
Éric Libio.
Non, je voulais savoir s'il y avait aussi un mode d'aluminium en plus que du four particulier ou pas.
Bah alors, robe de champ,
c'est une blague, pas la peine de répondre. Ah,
En fait, moi, je pensais que c'était Éric Libio qui allait faire la chronique sexe de Maya Mazorette. Ça aurait été drôle, non?
Comment alléger sa raclette? C'est un plat un peu riche. On peut peut-être remplacer les pommes de terre par des légumes, par des champignons portobello. C'est un champignon à texture ferme, à la saveur un peu fumée. Et puis, on peut alléger également une raclette avec une bonne salade verte. Et puis, on peut remplacer la charcuterie par la viande des grisons, par exemple.
Ouais, la viande des grisons.
Et le fromage, on ne remplace pas.
Bon, le fromage, on le remplace. Il va faire beaucoup d'interventions comme ça. Comment ça se passe,
Thibaut de Saint-Maurice?
Oui, alors moi, j'ai mangé une très bonne raclette avec des navets, figurez-vous, à la place des pommes de terre.
Faut aimer.
Et non, mais ça fonctionne assez bien parce que le navet a un peu d'amertume, mais il a aussi bizarrement une quand il est bien cuit, presque un petit goût sucré.
Je dénonce Guillemette Audicino qui a levé les yeux au ciel quand vous avez parlé de navet à la place des pommes de terre.
Ah oui, tout à fait. Mais je lève les yeux au ciel chaque fois qu'on remplace la pomme de terre par quoi que ce soit.
Je suis bien d'accord. Alors là,
les betteraves,
franchement.
On a prononcé le mot charcuterie assez tardivement dans ce débat.
Oui, j'ai trouvé aussi.
C'est une part importante de la chose.
J'ai cru que...
Réflexion philosophique, Thibaut de Saint-Maurice, sur la raclette.
Oui, je sais que vous adorez ça. Il y a évidemment dans la raclette quelque chose d'absolument fascinant qui d'ailleurs est une des fascinations générales de la cuisine, mais qui là a lieu sous nos yeux. C'est hyper convivial, on le fait au milieu. C'est une sorte de transformation d'état d'un des ingrédients. C'est-à-dire que le fromage va fondre. C'est aussi simple que ça. Et en réalité... Oui, non mais alors incroyable, exactement. Mais c'est une des dimensions assez magiques de la cuisine, c'est-à-dire la manière dont, avec un ensemble d'aliments, d'ingrédients qui sont répartis sur le plan de travail, on compose une recette. Et en fait, il y a plus dans le résultat final que ce qu'il n'y avait comme ingrédient. C'est-à-dire, principe métaphysique, c'est-à-dire qu'il y a plus dans le tout que dans les parties. Mmh. Et c'est ce qu'opère aussi cette petite magie de la raclette, c'est que le résultat de ce fromage fondu qui couvre un petit peu de jambon, un peu de cornichon, etc. Finalement, il y a un goût en plus, il y a une dimension en plus qui est supérieure à simplement l'adjonction de ces éléments 1+1+1. C'est la magie de l'opération qui se fait sous nos yeux.
Grégory Cohen.
Oui, juste aussi pour la raclette. J'adore d'avoir de la philosophie. Je suis hyper d'accord. Moi, je suis un surdoué de la philosophie. J'ai eu 2 au bac à la philosophie. Mais si j'avais su qu'on pouvait parler de raclette, peut-être j'aurais gratté 1 ou 2 points supplémentaires. Je pense à tous les bacheliers qui bientôt se préparent. N'oubliez pas, intégrez un peu de raclette dans votre truc. Alors, si vous n'avez pas l'appareil à raclette, parce que pour faire de la raclette, il nous faut un appareil à raclette. Si vous n'avez pas d'appareil à raclette, et que vous avez un four, je reviens là-dessus Eric, il suffit de le mettre sur grille, position grille, on prend un grand plat à gratin, on met notre raclette, là ça devient une raclette conviviale, on la place au milieu, le fromage sera fondu et on pourra se servir dedans un peu, tu vois, là aussi il y a peut-être quelque chose de philosophique.
On peut peut-être aussi simplement, un peu préparer les pommes de terre, un peu comme des tranches, faire des tranches et mettre des tranches de fromage entre et mettre au four.
Une petite tartiflette.
Oui, c'est plus une raclette.
D'où la modification. Je crois qu'on va faire l'émission là-dessus. Je crois qu'il est temps de passer au livre. Alors, Christina Pellidouen, là, vous avez choisi un magnifique, un somptueux cadeau bienfaisant pour nos yeux. Fantastique Gustave Doré. C'est publié aux éditions du Chêne. C'est fabuleux.
Hein. Ah oui, mais quelle idée.
C'est un beau livre d'estampes et de toiles.
Hein. Oui, un beau livre d'estampes avec une qualité. Alors, disons-le tout de suite, la qualité de l'édition
L'objet.
Est absolument remarquable. L'objet est magnifique. C'est un pavé. Hein. Je ne sais pas exactement combien de pages, mais à vue de nez, il doit y en avoir 500, plus de 500. C'est publié aux éditions du Chêne. Et quelle bonne idée d'avoir réuni dans une rétrospective quelques-unes, parce qu'il en a dessiné et exécuté plus de 10 000, quelques-unes des estampes de Gustave Doré. Alors, Gustave Doré, alors je tiens à préciser quand même, avant de vous parler de Gustave Doré, que c'est Alix Paré, donc, qui est historienne de l'art occidental, et Valérie Sueur-Hermel, qui est conservateur à la BNF, au département des estampes et de la photographie du 19e siècle, qui ont réalisé cette édition avec, en effet, tout un appareil critique et explicatif qui est remarquable et qui rend le livre non seulement magnifique, mais passionnant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Gustave Doré ou qui ne le connaissent pas très bien, jetez-vous sur ce livre, allez en librairie, feuilletez-le, regardez-le et offrez-vous-le ou offrez-le. Il coûte 60 euros, ce qui n'est pas donné, mais ce qui est tout de même tout à fait abordable une fois dans sa vie pour faire un cadeau ou pour se le faire à soi. Alors Gustave Doré, qui il est un dessinateur absolument génial du 19e siècle. Je dirais même que c'est un dessinateur qui est génial jusqu'à nous. À 23 ans, alors c'est un surdoué, hein, 23 ans, il avait déjà établi la liste des œuvres qu'il avait l'intention d'illustrer. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. 23 ans, il sait ce qu'il va faire. Il est mort à 51 ans, donc une vie brève, mais ô combien riche, une inspiration incroyable, torrentiel. Il a illustré les plus grandes œuvres. Il a illustré le Don Quichotte, il a illustré Rabelais, il a illustré Victor Hugo, il a illustré La Fontaine, il a illustré Charles Perrault. Qui ne se souvient pas de cette illustration extraordinaire du Petit Poucet où l'on voit l'ogre qui s'apprête à égorger, donc c'est fantastique, hein, c'est assez extraordinaire, à égorger ses propres filles, puisqu'il y a eu un changement par le Petit Poucet de ses frères avec les enfants de l'ogre. Donc, c'est une inspiration romantique, c'est le dessinateur romantique, mais il n'a pas fait que des estampes, il a aussi fait des reportages, je vous signale le reportage inouï qu'il avait fait à Londres en pleine période romantique au moment de la reine Victoria et qui a inspiré, alors il a inspiré Picasso, il a inspiré des cinéastes, il a inspiré des auteurs. Voilà, c'est un géant, c'est un génie. Et il faut absolument, vraiment, allez-y, plongez-vous dedans si vous ne le savez pas. En plus, juste un mot, Gustave Doré, c'est vraiment l'illustrateur qu'on connaît, mais on ne sait pas forcément que c'est lui. On a des images dans la tête. Il a inspiré Walt Disney, en particulier pour la dernière image de Blanche-Neige. Il a inspiré quantité de cinéastes. Donc on ne sait pas que c'est lui, mais il a imprégné tout l'imaginaire des illustrateurs et des auteurs du 19e et du 20e siècle.
Guillemette.
Ah oui, non, mais le livre, c'est somptueux. Et alors, vraiment, c'est un beau cadeau, mais un beau cadeau de Noël. Parce que je suis tout à fait d'accord avec Christina. Gustave Doré, c'est vraiment aussi, c'est tout l'imaginaire possible, le génie possible autour du fantastique, de ce qu'on maintenant peut appeler le gothique, de évidemment des contes de fées. Donc, La Belle et la Bête de Jean Cocteau.
Oui. Absolument.
Inspiration totale chez Gustave Doré. Peau d'âne de Jacques Demy, inspiration totale. Donc on est vraiment dans la période où on va voir tous ces films-là et de plonger à la source absolument sublime.
Mais c'est d'une beauté
de cette incroyable. Inspiration, c'est vraiment parfait.
Ouais. Et je me joins à Christina et Guillemette pour vous conseiller chaudement Fantastique Gustave Doré, c'est publié aux éditions du Chêne.
Tu bouges pas, Sylvain, bouge pas. Dans les yaks, ils nous ont vus, c'est certain.
This world has ears and rocks have eyes.
En fait, on est très indifférent au monde qui nous entoure, à peine conscient.
The world is a bush full of fire.
Dans la nature, t'es face. face à toi-même. Tu peux pas tricher.
Meunier m'avait offert de soulever un coin du voile pour contempler l'errance des princes de la terre. We are not alone.
Alors Éric Libiot, dans votre sélection, un beau livre, La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson et Vincent Munier chez Gallimard, et un documentaire éponyme est sorti en salle cette semaine.
Voilà, vous vous souvenez, en 2019, Sylvain Tesson avait été récompensé du prix Renaudot, hein, pour La Panthère des Neiges, donc qui est le récit de son voyage au Tibet avec le photographe Vincent Munier, et en 2020, donc... En ce moment, c'est sorti en octobre l'édition illustrée de ce livre avec les photos de Munier, une centaine de photos et le documentaire La Panthère des Neiges réalisé par Marie Amiguet, dont il faut évidemment saluer le travail. Alors on connaît le style de Sylvain Tesson, à la fois trivial et politique et poétique, pardon. C'est sans doute ce qui fait sa qualité. Alors juste un exemple, par exemple le côté trivial dans le dans son compte-rendu de son voyage, à 4h du matin, le réveil, le thermomètre affiché moins 35 degrés, il y avait quelque chose de stupide à s'extirper du sac de couchage. Et là, on peut comprendre. Et l'autre côté très très poétique, c'est la rencontre avec avec cette panthère des neiges, et que Sylvain Tesson résume en une magnifique phrase. Ce fut le face-à-face de notre admiration et de son indifférence. Et je trouve que la façon dont il parle justement de cette rencontre, parce que c'est un animal mythique, hein, la panthère des neiges, Vincent Munier la recherche et la suit à la trace depuis des années. Alors évidemment, le livre ne se résume pas à cette rencontre, puisque c'est tout le voyage et c'est le récit du voyage par Sylvain Tesson et les photos de Munier, et pour donc magnifique cadeau déjà chez Gallimard, et le documentaire. Alors je sais pas si ça vous fait cette même impression, mais c'est parfois quand on voit un documentaire sur des gens qui marchent ou qui font des voyages, on se dit oh, c'est formidable, il est tout seul face à la nature. On oublie assez rapidement, il y a quand même quelqu'un qui le filme, donc les gens sont vraiment jamais tout seuls. Et là, Marie Amiguet suit les deux hommes, et il faut saluer son travail qui est absolument... Pour moi, c'est un des plus beaux films de l'année. C'est pas compliqué, ça fait partie de deux, trois grands films de l'année qu'il faut absolument voir. Et Marie Amiguet fait un travail absolument superbe, le sens du cadre, du récit, de la dramaturgie, c'est un total dépaysement et c'est vraiment une merveille. Le livre et le documentaire.
La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson et Vincent Munier chez Gallimard, et le film en salle. Actuellement, Christine Fernieu, vous avez choisi un livre de Jackie Durand, l'une des plus belles plumes du quotidien Libération. Ça s'appelle « Cuisiner est un sentiment » et c'est publié aux éditions de L'Épure.
Et il n'y a pas une seule image, il n'y a pas une seule photo, tout est dans l'écriture et cette façon qu'il a à la fois de donner des recettes, mais de nous raconter la vie, de nous raconter des souvenirs, des rites, des lieux, puis parler d'amour à travers les rencontres avec l'oncle Jules et son magnifique fromage de tête, une petite rencontre légère, à peu près comme le fromage fondu. Et puis, il y a les asperges de la tante Germaine. Bon, on sait aussi comment il prépare cette cuisine-là, mais c'est la cuisine des copains, c'est cuisiner, virgule, un sentiment, ou cuisiner un sentiment, si on enlève la virgule, c'est pareil. Alors, il y a les saisons, il y a des paniers qu'on va chercher au marché, il y a la bonotte qu'on va chercher aussi, c'est une petite pomme de terre de Noirmoutier, là je regarde mon camarade. Et puis, cette façon qu'il a de décrire la bonotte, c'est l'enluminure de la pomme de terre, une strophe d'ultra-gourmandise dans le règne parmentier. On n'a pas besoin de photos, on n'a pas besoin d'images. On feuillette ce livre, on s'arrête sur une région, une recette. Et moi, je suis en pamoison devant l'écriture de Jackie Durand, qui est la gourmandise même.
Cuisiner, un sentiment, aux éditions de L'Épure, de Jackie Durand. Et c'est le conseil de Christine Fernieu. La sélection des Amis du Vendredi est disponible sur le site de France Inter. 10h25, allez, il est l'heure de retrouver l'Ami du Vendredi de Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino, qui mérite notre amitié cette semaine?
Alors, un peu de patience, vous allez voir. Parce que, cher Ali, chers auditeurs, chères auditrices, cette année, je vous le dis, je fête Noël chez ma tante.
Ah.
Alors, pas au Mont-de-Piété, hein, enfin, qui est l'actuel Crédit Municipal de Paris. D'ailleurs, vous savez pourquoi ce lieu de prêt sur gage a été surnommé chez ma tante ? François Ferdinand d'Orléans était un joueur invétéré Et après avoir déposé sa montre au Mont-de-Piété pour honorer une dette de jeu, bah, il aurait prétendu l'avoir oubliée chez sa tante. Oui, alors je sais, je digresse, mais je m'entraîne. Je m'entraîne pour les repas de Noël, où en général, mieux vaut occuper le terrain des conversations en anecdotes marrantes, pour éviter de parler des choses qui fâchent. Et cette année, je pense que la mission va s'avérer particulièrement ardue. Donc revenons à ma tante. Alors vraiment, je suis heureuse de passer Noël chez elle, car je ne vais pas en ficher une rame. Bien sûr, j'aurais eu la charge mentale de l'achat des cadeaux, le train bondé avec la charge des cadeaux sur les genoux, mais le soir du 24 ou au déjeuner du 25, je ne mettrai pas la table, ou alors juste, ok, allez, les serviettes en papier. Je ne stresserai pas au sujet de la cuisson de la dinde, je ne composerai pas des assiettes spéciales pour les végétariens, je ne réaliserai pas au bout d'une heure que je n'ai même pas eu le temps de tremper les lèvres dans ma coupe de champagne, qui d'ailleurs aura tiédi à la cuisine, puisque c'est là que j'aurai passé toute la soirée. Je ne serai pas une babou. Et pourtant je l'aime, ma merveilleuse Elisabeth dans Le Prénom, la pièce puis le film de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Ce dîner en famille où une blague, de mauvais goût, entraîne révélation et règlement de compte, pourrait être transposé tel quel en dîner de Noël, avec Babou qui, à la fin, craque.
On est tous pareils, alors. On est dans le non-pardon, ce soir. Alors moi, je vais prendre mon aigreur, ma tristesse et ma rancune, et toutes les quatre, on va aller se coucher. En vous laissant la vaisselle, pour une fois. Pierre, tu es sur le canapé, tu y restes. Si les enfants pleurent, c'est pour toi. Moi, je vais prendre une boîte de Temesta et dormir pendant 2 jours. Allez tous vous faire foutre et bonne nuit.
Babou est la meilleure amie du monde. La sœur la plus serviable du monde. L'épouse la plus multitâche du monde. Mais évidemment, tout le monde trouve cela normal et personne ne pense à l'en remercier. Et c'est fou aussi comme elle est drôle, avec ce sens de l'observation qui va souvent de pair avec l'attention aux autres. Elle sait mieux que quiconque imiter un petit tic de son frère. Elle peut réciter par cœur tous les endroits incongrus de l'appartement où son mec laisse tout le temps traîner les clés de la cave. Elle connaît la couleur préférée ou le dégoût alimentaire de chacun. Car elle les a tellement écoutés. Elle les a tellement regardés. Quand eux, regardaient ailleurs.
Donc, à la fin de la soirée, Babou claque la porte.
Oui, mais avant de claquer la porte, donc, elle a parlé 4 minutes et 10 secondes. Le monologue d'une vie où elle balance à son entourage, qui pour une fois se tait, tout ce qui lui pèse sur le cœur depuis son enfance. Jeune fille, sœur, épouse, mère, elle a toujours tout en question en silence. Et soudain, la digue se rompt. Parce que son mari lui a juste conseillé de s'excuser. Mais qui va me demander pardon à moi ? Ainsi démarre la scène la plus culte du film. Et Babou, mon ami, devient le personnage principal. Alors que jusque-là, elle n'a cessé de faire des allers-retours entre le salon et la cuisine en criant « Attendez-moi pour discuter !» Mais on ne l'attend pas. Elle est magnifique, cette Babou, dévouée et épuisée de l'être. Et pour ce rôle, la géniale Valérie Benguigui, bien trop tôt disparue en 2013, décrocha le César de la meilleure actrice pour un second rôle. Sur la scène, elle déclara « Il y a longtemps que je fais ce métier. Il n'y a pas si longtemps que je suis visible. » Pour Noël, rendez visibles les babous. Dites merci à la babou de votre famille. Partagez les tâches avec elle. Et vous pouvez aussi lui demander pardon. Ce sera un beau cadeau. Plus doux que du cachemire. Plus bienfaisant qu'une bougie aux huiles essentielles. Tiens, d'ailleurs, en fait, je vais appeler ma tante pour savoir si elle veut pas que je lui donne un coup de main pour la dinde.
L'ami du vendredi de Guillemette Odissino a podcasté sur l'appli France Inter. Dans un instant, 2 escapades en France pour des vacances de dernière minute. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Alexia Rivière, Camille Poux, Jalagui, avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation a été signée avec Claire Destacan, la programmation musicale Valentine Chedebois, à la technique ce matin Pauline Laverdure et Alix Barrois. Et permettez-moi de saluer très chaleureusement une personne qui va vraiment beaucoup manquer à Radio France et tout le monde acquiesce autour de la table. Si vous êtes venu dans ce monument historique à la Maison de la Radio, elle vous a peut-être accueilli ou fait visiter le musée de la Maison de la Radio. Laurence Jacquet part à la retraite après 42 ans passés dans cette maison qu'elle a tant aimée et où elle a débuté en tant que conférencière. Laurence Jacquet qui a accueilli des milliers et des milliers d'invités à France Culture, France Inter, France Info, France Bleu. Laurence Jacquet qui a accueilli donc tant d'invités. Ma chère Laurence, ton sourire, ton élégance, ton humour vont vraiment, vraiment nous manquer. Et je te souhaite une magnifique retraite, active ou pas. Un petit mot peut-être pour nos auditeurs que tu quittes après 42 ans.
Merci Ali pour tout ça. Écoute, oui, j'ai passé de très belles années ici. C'est passé très vite. J'étais très heureuse de faire partie de Radio France et de vous accueillir tous et encore et beaucoup d'autres effectivement depuis de nombreuses années.
Et Christina, tu t'es étonnée qu'elle parte à la retraite.
Ah oui, j'étais surprise, attristée, j'ai appris ça ce matin. Bonne retraite et merci.
Merci beaucoup Laurence Jacquet, bravo pour ces années passées à Radio France et toute l'équipe de Grand Mère vous fasse et tout France Inter s'associe à moi. Bonne retraite. Et nous t'offrons ce titre de Marvin Gaye. Pour ton départ, Ain't No Mountain High Enough.
Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby.
If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far.
Don't worry, baby,
just call my name, I'll be there. You don't have to worry,
oh baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow, I'll be there when you want.
Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough.
Alors allons-y franchement, hôtel des voyageurs.
Grand bien vous fasse.
Les Galapagos, les allées houssiennes, je leur en foutre moi des voyages.
Sur France Inter.
10h34 et Éric Libiot qui se fiche de mon accent anglais.
Il n'y a aucune raison en plus. Hein.
Oui, c'est vrai.
Éric, vous passerez à la compta tout à l'heure. Merci. Deux escapades pour des vacances de dernière minute et nous accueillons Patrick Beau. Bonjour Patrick Beau.
Bonjour Ali.
Vous êtes le créateur de la chaîne YouTube Axolot qui rassemble 618 000 abonnés sur YouTube et vous publiez chez Duno France secrète, merveille insolite. C'est un très très joli livre. Alors comment avez-vous conçu ce livre qui nous montre des merveilles méconnues de notre pays? C'est une manière de découvrir la France autrement, hein.
Voilà, c'est ça l'idée, c'était vraiment de redécouvrir le pays par le prisme de ses sites les plus surprenants et de préférence les plus méconnus. Donc moi-même, en faisant les recherches pour le bouquin, je me suis aperçu que je ne connaissais pas mon pays, alors que ça reste la destination touristique la plus prisée au monde, mais en réalité, il regorge de sites incroyables et magnifiques. Donc voilà, j'ai essayé de les compiler dans ce livre.
Et Patrick Beau, comment avez-vous sélectionné ces lieux insolites, merveilleux ?
Alors, il y avait trois critères principaux. Le premier critère, c'était le caractère surprenant du site par sa forme, par son histoire, par ses couleurs, parce qu'il y a à la fois des sites naturels et architecturaux. Donc, il y avait déjà ça, l'impact insolite et surprenant. Ensuite, il y avait la beauté du lieu, puisque donc c'est un livre dans lequel on retrouve beaucoup de photos et il fallait qu'à chaque image, il y ait un petit peu un effet wow, que les gens se disent, je ne savais pas que ce site était en France. Donc, voilà, il y a aussi la beauté du lieu. Et bien sûr, le fait que ce soit des lieux méconnus, voire inconnus pour certains. Il y a pas mal de lieux que j'ai sélectionnés qui ne sont pas connus en dehors de certains villages, de certains départements. Donc voilà, c'était les trois critères principaux.
Alors vous avez choisi deux escapades hein, pour ces vacances de Noël ou pour un week-end. Une escapade qui plaira à Christina Pelédouel, direction la Seine-Maritime pour découvrir le chêne d'Allouville, considéré comme le plus vieux chêne de France. Hein.
Voilà, donc c'est un chêne qui est âgé de plus de 1200 ans, ce qui lui vaut effectivement d'être considéré comme le plus vieux chêne de France. Et donc non seulement il a une histoire étonnante et riche, ce chêne, mais en plus, donc quand on le voit, on a un peu l'impression d'être devant une maison de films fantastiques ou d'héroïque fantasy. On l'imaginerait bien dans Le Seigneur des Anneaux, puisque ce chêne contient deux chapelles à l'intérieur, donc son tronc est creux. Donc il y a une première chapelle au rez-de-chaussée, si je puis dire, et une sorte de cellule monastique qui a été construite au-dessus, il y a plusieurs siècles de ça, et ces deux chapelles existent toujours, on peut les voir, et aujourd'hui, comme l'arbre est très vieux, bien sûr, il est soutenu par des béquilles, son tronc est protégé par des écailles de bois, il y a des clochers perchés sur ses branches, donc on a un peu l'impression voilà, de voir une maison-arbre, comme on peut en trouver dans les contes de fées.
Vous le connaissez ce chêne, Christina ?
Je ne l'ai jamais vu en vrai, mais je le connais de réputation, puisque j'ai une passion pour les arbres et pour les chênes en particulier. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il est toujours en vie, cet arbre. C'est extraordinaire. Alors j'espère que l'ONF a soigneusement conservé l'ADN de ce chêne, parce qu'en forêt de Fontainebleau, il y avait un très beau et magnifique et célèbre chêne qui s'appelait le Jupiter. Il y avait 600 ans, et malheureusement, avant que l'ONF ne puisse préserver ce qui aurait permis d'assurer sa descendance, il est mort, et donc voilà, on ne peut voir maintenant que sa dépouille toute desséchée. Donc il vit, et c'est un miracle. Quoi.
Éric Lignot.
Pardon pour cette question, mais est-ce qu'il y a un tronc dans la chapelle qui est dans le tronc?
Alors, Patrick Beau. Ça ne se pose pas la mise en abîme jusque-là.
Bah, oui, mais...
Et on y accède facilement à ce chêne d'Allouville, Patrick Beau?
Alors il y a un escalier en colimaçon qui a été installé pour qu'on puisse justement y accéder facilement. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que donc le chêne a bien failli s'effondrer. Donc il a été frappé par la foudre au cours du XXe siècle et au début des années 80, il était assez mal en point. Mais justement, il y a eu une mobilisation autour de cet arbre pour le sauver, pour le protéger. Et donc aujourd'hui, il continue à produire des feuilles et des glands comme un très jeune arbre alors qu'il a 1200 ans.
Alors après le chêne d'Allouville en Seine-Maritime, deuxième escapade à Lyon pour découvrir le jardin Rosamir, c'est ça ?
C'est ça. En fait, c'est un site que j'ai choisi parce que, en fait, il s'apparente un petit peu au célèbre palais du facteur cheval, donc qui fait un petit peu office de référence en termes de lieux insolites et naïfs comme ça. Donc, c'est un lieu qui avait été créé par un homme qui n'y connaissait rien en architecture et qui, en collectant des pierres petit à petit, a réussi à construire ce palais incroyable. Et ben, en fait, il y a pas mal de sites comme cela en France. J'en ai réuni plusieurs dans le livre et le jardin Rosamir, c'est un site qui ressemble beaucoup puisque donc il a été construit par un homme qui a consacré les 20 dernières années de sa vie à assembler ce jardin dans une cour intérieure à Lyon. Et en fait, cet homme qui s'appelait Jules Sénis, donc avait été frappé d'une maladie assez lourde qu'il a cloué dans un lit d'hôpital pendant 2 ou 3 ans. Et il s'était promis que s'il s'en sortait, il construirait un jardin extraordinaire en hommage à la Vierge et à sa mère. Donc Rosamir, c'était le nom de sa mère. Et donc, il s'en est sorti, et pendant donc les 20 dernières années de sa vie, il a collecté des pierres d'une certaine couleur, des coquillages, et il a assemblé tout ça dans une cour intérieure à Lyon. Évidemment, c'est rempli de végétation et de fleurs. Et ce qui est assez fou, c'est que même les habitants de Lyon, généralement, ignorent l'existence de ce jardin, qui est assez caché comme ça, au milieu d'un quartier résidentiel. Et quand on le voit, c'est une vision vraiment extraordinaire, avec avec une architecture qui ne ressemble à rien de connu, un peu comme pour le facteur cheval. Et donc voilà, c'était pour ça que je l'avais sélectionné.
Merci beaucoup, hein, Patrick Beau. France secrète, merveilles insolites. C'est publié chez Duno et c'est à offrir à Noël. Et je recommande également votre chaîne YouTube, Axolot. Éric Libéo, un livre qui fait du bien, c'est Depuis, je vous réveille, hein, Depuis que je vous admire, de Catherine Sova. Et c'est publié chez Fayard.
Oui, avec... Non, vous me réveillez pas, mais j'étais surpris, c'est tout. J'écoutais avec attention. Parce que je crois que je suis allé voir ce jardin à Lyon. J'étais en train d'essayer de me commémorer. Et c'est effectivement, c'est assez magnifique.
Il cherchait une vanne, en fait, je pense.
Et en plus, je cherchais un jeu de mots que je ne trouvais pas. Et ça me désespérait. Enfin, bon, donc, le sous-titre de cet ouvrage, oui, depuis que je vous ai lu, je vous admire. Le sous-titre, visite d'écrivain à leur maître. C'est un ouvrage extrêmement singulier et original. C'est des textes très courts, très informés, venus de la correspondance, de témoignages ou des écrits des uns, des unes. Et Catherine Sova, elle tisse des liens comme ça entre un écrivain et ceux ou celles qui l'admirent, alors qui sont eux-mêmes écrivains d'ailleurs. Hein, c'est Edgar Allan Poe à Charles Dickens, Paul Verlaine à Victor Hugo, Kipling à Mark Twain, François Sagan à Carson McCullers, Gilles à Conrad, etc. Et puis, alors c'est parfois des rencontres qui se sont faites et dont les uns et les autres ont fait état. Ou des fois, ils ont été très déçus. Des fois, ils ont été très admiratifs, etc. Il y a tous les cas sont dans la nature et c'est ça qui est assez admirable. C'est jamais universitaire, jamais très érudit, mais au contraire, Catherine Sova réussit à pointer comme ça les liens entre les uns et les autres. Alors il y a des exemples assez amusants. Par exemple, William Burroughs, Allen Ginsberg et Susan Sontag qui sont allés voir Samuel Beckett parce qu'ils l'admiraient profondément. Évidemment, Beckett n'a pas dit un seul mot. Il a hoché la tête. Il a regardé à droite, à gauche. Et on avait même conseillé aux trois admirants d'amener une bouteille de whisky parce que de toute manière, Beckett n'offrirait strictement rien à boire. Et seul Ginsberg a un souvenir ému de cette rencontre. Les autres étaient un tout petit peu désabusés. Et il y a aussi, par exemple, Paul Verlaine à Victor Hugo, qui quand même finit par reconnaître que Verlaine avait du talent. Et j'ai appris aussi qu'à 14 ans, Hugo a déclamé « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Il a fini par rencontrer Chateaubriand. Il a été Victor Hugo, ce qui n'est déjà pas si mal.
Je redonne le titre que j'ai hélas écorché. « Depuis que je vous ai lu, je vous admire » de Catherine Sova.
Très beau livre.
Et c'est publié chez Fayard. Alors, Christina Pelédouel, vous offrirez à Noël la vérité sur la lumière de l'Islandaise. Alors, j'espère que je n'écorche pas le nom. Odur Ava Olafsdottir, c'est publié chez Zulma.
Oui, vous connaissez mon affection pour les éditions Zulma et ce livre ne fait pas exception à la qualité exceptionnelle de leur choix. Je ne répéterai pas le nom de l'auteur, je ne veux pas me couvrir de ridicule, mais en tout cas, l'an dernier, elle avait reçu le prix Médicis étranger pour son premier roman traduit en France qui s'intitulait Miss Island. Et cette autrice, elle a un talent vraiment tout à fait particulier pour évoquer les choses sans les décrire dans le détail. Voilà. Et là, de quoi est-il question ? Eh bien, il est question d'une lignée de sages-femmes dont l'héroïne est la dernière représentante et qui trouve dans l'appartement dont elle hérite, l'appartement de sa grand-tante, elle trouve une série d'écrits qu'elle va décrypter au fur et à mesure et qui toutes parlent de la naissance. Et au passage, le pourquoi de ce titre étrange, La vérité sur la lumière, c'est que sage-femme en islandais, ne me demandez pas de le prononcer, se dit, c'est la mère de lumière, la sage-femme, traduction, mère de lumière. Voilà, donc je n'en dis pas plus, c'est un livre vaporeux, et magnifique.
La vérité sur la lumière d'Odur Ava Olafsdottir et c'est publié chez Elma. Christine Ferniaud, pourquoi va-t-on se régaler avec le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs de Mathias Sénard, c'est publié chez Actes Sud. C'est un beau titre, banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs.
C'est un beau titre et c'est un livre en fait qui parle à la fois parce que Mathias Sénard, c'est un grand voyageur. Il nous a fait découvrir l'Orient à sa manière. Et là, d'un seul coup, il retourne dans le Poitou. Donc, c'est un peu surprenant. Le Poitou, et c'est un garçon qui est né à Niort et qui décide d'avoir une histoire avec un ethnologue qui s'appelle David Mazon et qui va observer le terrain du Poitou comme on observerait, je sais pas moi, la dernière banquise. Alors, il y a un petit côté Lévi-Strauss comique chez David Mazon. Mais surtout, Tout se passe au café, parce que c'est quand même là que l'ethnologie peut exister, c'est dans le café du coin. Et dans ce café, il y a la confrérie des fossoyeurs qui, une fois par an, pendant 3 jours, va boire et manger en permanence. Mais ce sont des fossoyeurs, donc la mort décide de leur épargner pendant 3 jours le moindre travail. Donc personne ne meurt pendant ces 3 jours du banquet de la confrérie. Écoutez ce livre, il est à la fois d'une intelligence brillante, parce que Mathias Sénard est un connaisseur de tout. C'est merveilleusement écrit, parce que c'est aussi un esthète et un rêveur absolu. C'est gourmand, parce que qu'est-ce qu'on boit et qu'est-ce qu'on mange, et ça n'arrête pas. Et c'est un hommage à Rabelais, parce que là aussi, la culture de Mathias Sénard, elle se niche aussi dans son côté très rabelaisien. Donc, c'est un livre merveilleux, extrêmement truculent, et c'est chez Actes Sud.
Christina, un mot ? Mais
c'est tout à fait adapté à la période de Noël, où on ne cesse de manger et de boire. C'est un livre baroque.
Oui,
magnifique et très profus.
Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs de Mathias Sénard, c'est publié chez Actes Sud. 10h46, et ben c'est l'heure de la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne, jamais.
Alors mon cher Thibaut, cette semaine, encore une fois, vous nous accompagnez dans nos courses de Noël en vous demandant s'il faut encore offrir des DVD et des CD.
Oui Ali, alors la question peut vous paraître étrange, mais c'est vraiment la question que je me suis posée cette semaine en préparant mes petites listes, hein, et tout en constatant aussi qu'une grande partie des films ou des séries que j'avais chez moi sous forme de DVD se retrouvaient désormais sur des plateformes auxquelles je suis abonné. Alors certes, tout le monde n'est pas abonné à des plateformes, mais les chaînes de télévision, elles aussi, hein, mettent de plus en plus en ligne leurs programmes, ainsi que des films, et puis on peut aussi, après tout, choisir d'offrir un abonnement à une plateforme. Alors je me suis donc demandé ce que toute cette dématérialisation faisait aux œuvres que sont les films de cinéma ou les séries. Évidemment, la question se pose aussi pour la musique, hein. Ça fait bien longtemps, je dois avouer que je n'ai pas acheté de disques et je n'ai même plus d'équipement pour lire ces disques chez moi. La musique que j'écoute, désolé, sort désormais de mon téléphone. Et pourtant, la musique, le cinéma et les séries n'en sont pas moins présentes dans ma vie. Le paradoxe même, c'est que toutes ces œuvres sont encore plus présentes dans ma vie, alors même qu'elles prennent moins de place chez moi et qu'elles en ont disparu, hein, en tant qu'objet. Et même c'est assez pratique, hein, d'avoir tout plein de catalogues d'œuvres audiovisuelles ou musicales en ligne, parce que ça prend moins de place à la maison, ça coûte moins cher aussi et ça permet donc en un sens de découvrir davantage d'œuvres.
Mais n'y a-t-il pas tout de même quelque chose qui est perdu avec cette dématérialisation ?
Oui, bien sûr, la transformation n'est pas anodine et ça fait d'ailleurs bien longtemps qu'elle est pensée, hein, par les philosophes et les historiens de l'art. Au milieu du XXe siècle, le philosophe allemand Walter Benjamin écrit un texte intitulé « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique » dans lequel il s'interroge déjà sur une première dématérialisation qui était pour lui le passage de la peinture à la photographie et au cinéma. Avec la photographie ou le cinéma, les œuvres deviennent donc reproductibles et cette reproductibilité a pour conséquence, dit-il, de transformer la valeur de l'œuvre. On passe d'une valeur cultuelle à une valeur d'exposition. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui fait la valeur d'une œuvre, c'est moins son aura unique et quasi sacrée, que les musées d'ailleurs tentent de conserver, que sa grande diffusion et son accessibilité au plus grand nombre. Si on pense donc les plateformes de streaming aujourd'hui comme des accélérateurs de reproductibilité, eh bien nos films préférés, nos séries préférées auraient donc de moins en moins d'aura, mais seraient davantage donc exposés et accessibles, au point même d'être devenus des marchandises presque comme les autres. C'est du moins la conclusion qu'en tire Benjamin et que l'on entend encore ça et là aujourd'hui. Alors au fond, chacun fera bien comme il veut, hein, mais on peut voir dans cette dématérialisation finalement une opportunité. Parce que chacun de nous peut désormais choisir de redonner de l'aura aux œuvres qui sont importantes pour lui, en décidant d'offrir ou de s'offrir pour lui-même les DVD ou les CD qui comptent. Et on a un indice avec, par exemple, le succès des ventes du dernier disque d'Orelsan. Notre culture est aujourd'hui faite d'œuvres, d'expériences et puis désormais aussi d'accès à des catalogues. Mais nous pouvons aussi naviguer chacun et chacune d'entre nous entre ces différents éléments et composer, chacun et chacune, donc notre musée personnel.
Qu'est-ce qu'il est brillant, ce Thibaut de Saint-Maurice.
Alors, j'allais le dire.
De Metodissimo.
J'allais le dire. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec ça. C'est maintenant, effectivement, est venu le temps de racheter comme ça quelques objets. Quelques objets dont on ne peut pas imaginer ne pas pouvoir les manipuler, ne pas pouvoir regarder la jaquette de tel film qui, pour nous, est un film absolument, oui, culte. Et puis, il faut penser aussi aux coupures de comment dire, d'Internet et compagnie. Moi, j'ai eu, pendant le confinement, eh bien, il y a mon opérateur, bah, il y a tout qui a pété dans le quartier. Eh bien, un bon petit lecteur DVD avec des DVD à l'intérieur, eh ben, vous savez que ça vous sauve la vie, quand
même. C'est très vrai. Et vous pouvez, évidemment, podcaster, la chronique de Thibaut de Saint-Maurice sur l'appli France Inter. Juste après le disque, notre chef Grégory Cohen vous proposera, deux idées pour le réveillon de Noël. On écoute Malik Djoudi, qui interprète Vertige. Jeudi, interprété Vertige.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
Grand bien vous fasse, loisirs et les recettes de Noël de Grégory Cohen. Alors Grégory Cohen, une entrée et un dessert pour le réveillon. On commence avec l'œuf parfait cœur café.
Alors,
ça m'a l'air compliqué. Comme
alors
ça.
En fait, ça c'est une recette de chef. Généralement, je donne des recettes plutôt plutôt simples, faciles à faire, des recettes avec ce qu'on a autour de nous. Là, c'est une recette de chef, mais qui est simple. Il nous faut 4 œufs, 200 grammes de champignons, une demi-échalote émincée finement, quelques feuilles de persil plat émincées finement aussi, un café ristretto, alors Eric ça veut dire un café très serré, une seringue à acheter chez son pharmacien, on demande une aiguille fine, 2 tranches de pain de campagne découpées en petits dés et une belle noisette de beurre, environ 25 grammes. On va démarrer par cuire ses œufs. Alors l'œuf parfait, c'est un œuf qui va avoir coagulé de façon homogène le blanc et le jaune. Le blanc va avoir coagulé, le jaune va rester complètement cru, et c'est pour ça qu'on dit qu'il est parfait.
Combien de minutes ?
Pour ce faire, c'est précis, c'est 64 degrés, et c'est pendant 50 minutes environ. En gros, on connaît la cuisson basse température avec notre gigot de 7 heures, et ben là, on va faire quelque chose d'un peu différent, plus court évidemment, avec notre œuf. Donc, une fois qu'on a cuit nos œufs à 64 degrés pendant 50 minutes environ, ils seront parfait, la texture sera parfaite. On va réaliser une tombée de champignons. Alors pour ça, on va faire suer les échalotes avec une noix de beurre et un trait d'huile. On fait ça pour que le beurre ne brûle pas. Et on va réserver nos échalotes. Ensuite, dans la même poêle bien chaude, on va saisir et colorer les champignons à vif. Il faut que la poêle soit très chaude pour que les champignons ne lâchent pas de leur eau. Ensuite, on va rassembler les échalotes, les champignons et le persil plat. On met ça de côté. On fait fondre le beurre et on attend qu'il devienne noisette. Donc c'est cette fameuse couleur un petit peu marron et cette odeur noisette. On met alors les dés de pain. Ils vont absorber tout le beurre. On va laisser cuire jusqu'à ce qu'il soit croustillant. Et là vient le temps du montage. On place dans chaque assiette les croûtons, la tombée de champignons. On casse l'œuf dessus. Et à l'aide de la seringue remplie de café ristretto, on va venir piquer délicatement le jaune de l'œuf et injecter du café en son cœur. Une pincée de sel, un tour de moulin à poivre, le tour est joué. Alors le goût de cet œuf coulant avec cette pointe de café, le croustillant des croûtons et le fondant des champignons, c'est un régal, ça nous rappelle un peu les œufs mouillettes, et c'est surprenant.
Et au dessert, un gâteau roulé de Noël, bon chez moi ça s'appelle une bûche.
Alors en fait, je vais expliquer comment on fait le biscuit roulé, et après on fera ce qu'on veut après à l'intérieur. Alors ça, c'est très simple, c'est 15 minutes chrono. 15 minutes chrono, cuisson comprise. On a besoin de 40 g de jaune d'œuf, 100 g d'œuf, 70 g de sucre glace, 60 g de blanc d'œuf, 20 g de sucre semoule et 60 g de farine. On va préchauffer son four à 180 degrés. Et puis dans le bol du robot, muni d'un fouet ou alors à la main si on est plus courageux, on va fouetter les jaunes, les œufs et le sucre glace afin d'incorporer un maximum d'air. Normalement, ça va doubler de volume à peu près. On obtient un mélange homogène et mousseux. On met de côté. On va ensuite monter ces blancs avec le sucre semoule jusqu'à obtention de blanc bien ferme. On va incorporer ces blancs délicatement au mélange œuf et sucre, alors en trois fois. C'est beaucoup plus simple, ils resteront gonflés. Et puis ensuite, on va verser la farine en pluie. La farine aura été évidemment tamisée et on mélange toujours délicatement. On étale ensuite cette préparation à l'aide d'une grande spatule sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. On enfourne pour 7 minutes, c'est tout.
7 minutes.
Ouais, ça va assez vite. Le biscuit doit être légèrement coloré sur le dessus. On le ressort du four, on réserve sous un linge humide et après on n'aura plus qu'à faire notre préparation et à rouler, il ne cassera pas.
7 minutes à 180 degrés ?
7 minutes à 180 degrés. Le four doit être à 180 degrés, donc on le fait préchauffer avant.
Merci beaucoup Grégory Cohen et on peut évidemment retrouver ces deux recettes sur le compte Instagram, votre compte Instagram, Grégory Cohen Off, off avec
deux F.
Merci à tous, merci Eric, Guillemet, Thibaut, Christine, Grégory et Christina. Tous les conseils sont à retrouver sur l'appli France Inter. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur France 2 à 9h30 dans l'émission Bel et Bien en compagnie d'Agathe Le Caron, de Christophe André et d'André Manoukian. Et lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Thomas Chauvineau pour une émission consacrée à l'alimentation durable. Vous pouvez d'ores et déjà laisser des notes vocales sur l'appli France Inter.
Bonnes vacances.
Merci.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Le bassin d'Arcachon.